Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
L'Afrique et la Grande Guerre, les enjeux. Tout au long de l'année 2018, et cela va se prolonger certainement jusqu'en 2019, ces cérémonies, ces réflexions sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. 2018, c'est surtout le récit des derniers combats. La guerre a commencé en 1914. 2019, c'est les premiers traités de paix qui vont modifier le visage de l'Europe, mais qui vont modifier aussi le visage du continent africain. L'Afrique, d'ailleurs, a une situation assez ambiguë dans ces cérémonies de la Première Guerre mondiale. D'une part, les États africains eux-mêmes ne semblent pas accorder beaucoup d'importance à ce cinquantenaire qui se prolonge jusqu'aujourd'hui. Et d'autre part, les autres belligérants, donc les pays européens, l'ex-empire ottoman, les États-Unis d'Amérique qui ont participé aussi à ce conflit, évoquent très très rarement la situation du continent africain. Or, on peut penser que le continent africain n'est pas du tout absent de ce conflit, des débats factuels, qu'est-ce qui s'est passé, comment, combien il y a eu de morts, et aussi des enjeux de mémoire. Il y a d'ailleurs un historien dont on ne fait pas beaucoup de cas quand on parle du continent africain, alors que c'est un très grand personnage, c'est Dubois. W.E.B. Du Bois, comme disent nos amis américains. Donc, William Edgar Burghardt Du Bois, qui était historien. Il a passé sa thèse de doctorat en histoire à Harvard University, donc ça n'est pas rien. Il a été enseignant d'histoire. Il a écrit des livres d'histoire sur les États-Unis, sur l'Afrique, sur l'Extrême-Orient, le Japon, la Chine, sur l'Inde. Et au moment où la guerre est en train de se dérouler, il écrit un texte fameux en 1916 pour expliquer que l'enjeu de la Première Guerre mondiale, ce ne sont pas vraiment les pays balkaniques. Ça n'est pas seulement l'Empire ottoman et sa domination sur l'Europe. Bien sûr, c'est l'Alsace-Lorraine et la querelle entre la France et l'Allemagne, mais que c'est aussi le continent africain. Et il ajoutait d'ailleurs que entre les Blancs, il y a eu beaucoup de guerres. Et c'est lui qui parle de Blancs. Entre les Blancs, il y a eu beaucoup de guerres. Il y a toujours eu des paix. Alors que à partir de la fin du 19e siècle, dit-il, le visage de la guerre est en train de changer dans le monde avec l'apparition ou l'entrée en scène de ce qu'il appelle les peuples de couleur. Donc, dit-il, par exemple, l'Éthiopie a battu l'Égypte. C'est la bataille d'Adwa. Par exemple, le Japon, lui, considère les Japonais comme un peuple de couleur. Le Japon a battu la Russie. Donc, dit-il, la situation du monde est en train de changer et que donc la guerre mondiale, on ne doit pas la réduire simplement à un conflit entre Européens. L'Afrique est également présente. Alors, on va voir avec vous, professeur Mabiala, cette situation qui renverse quand même un peu notre manière de voir le conflit avec la place que l'Afrique occupe dans les divergences entre les grands États d'Europe. On a l'impression souvent que ce sont les anciens impérialismes reliés à la traite des esclaves, donc la France, l'Angleterre, qui étaient les plus impliqués. Mais que dire de l'Allemagne ? C'est vrai que comme État national, l'Allemagne le devient un peu tard. Après 1870 et la proclamation de l'Empire allemand, mais l'Allemagne s'intéresse aussi aux colonies.
Eh bien, je pense que c'est une question importante lorsqu'on parle aujourd'hui d'histoire globale. L'Afrique des années 1885, donc l'Afrique de la conférence de Berlin, c'est une Afrique qui n'existait que sous le régime impérial. Ça signifie que les puissances réunies à la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885 pour soi-disant partager l'Afrique sont allées là-bas et pour partager l'Afrique en zone d'influence, non pas en État. Alors les zones d'influence obéissaient au principe de l'impérialisme de l'époque. Cette théorie disait qu'écoutez, la puissance qui s'établit sur la côte doit progresser vers l'intérieur des pays, occuper les pays, jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre puissance. Et là, à l'endroit où les deux explorateurs se rencontrent, on trace la frontière. Donc, à Berlin, on a fixé une Afrique équatoriale française, une Afrique occidentale française, Est-Africain allemand, et le Congo belge, ainsi de suite, et des États comme l'Éthiopie qui existait déjà. Donc, à Berlin, on a posé un problème d'impérialisme. Ça signifie que, par exemple, les Français, en partant de Dakar, devaient progresser, ils avaient l'envie de progresser jusqu'à Djibouti en traversant le continent africain. Les Anglais qui étaient au Caire devaient traverser tout le continent africain jusqu'à Cape Town. Et les Portugais qui étaient en Angola devaient traverser le continent jusqu'au Mozambique. Donc, c'est ce que vous avez appelé d'ailleurs vous-même et d'autres encore la ruée vers le continent africain, scramble. Donc, si une ruée vers le continent, chaque puissance a essayé de progresser en disant, nous les Anglais, nous allons avoir par exemple un chemin de fer qui irait du Cap vers le Caire et les Français de Djibouti, de Dakar vers Djibouti, ainsi de suite. Dans cette volonté d'occupation du continent africain, eh bien, il y a eu en cours de route des moments critiques. Des moments critiques où les puissances se sont presque affrontées. Alors, de plus en plus, un État comme le Congo belge, c'était un gros morceau au milieu de ses ambitions qui voulait faire des itinéraires à travers tous les continents. Et le Congo devient un enjeu parce que d'abord à Berlin, on décide que certaines puissances, comme la France a un droit de préemption sur le Congo. Le Portugal également, à la côte atlantique, a un droit de préemption sur le Congo. Le droit de préemption qui veut dire que, en cas de faillite de Léopold II, parce que Léopold II a acquis le Congo comme une propriété personnelle par le régime de l'union personnelle. Alors on a dit, si Léopold II n'est pas capable de gouverner le Congo, il y a un droit de reprise que nous donnons aux Français ou aux Portugais à la côte atlantique pour reprendre cet espace que Léopold II aurait abandonné par manque de responsabilité. Alors,
c'est comme lorsque, disons, quelqu'un qui a une maison, hein, a des problèmes pour entretenir cette maison, il dit, bon, je donne le droit de préemption à tel, si je suis en faillite, je me tourne vers vous pour l'acheter au prix que vous voudrez bien me donner.
Et justement, c'est le régime du Congo belge, on a dit, au cas où le roi des Belges, parce que la Belgique, c'est une invention de la diplomatie du 19e siècle, elle-même indépendante en 1830, et c'est des diplomates français et hollandais qui ont négocié, et la Belgique existe depuis 1830, et 55 ans après, voilà, est devenue une puissance coloniale. Au départ, elle a dit, je ne peux pas devenir une puissance coloniale, je n'en ai pas les capacités, je vais en être moi-même. Et c'est comme ça que le Congo deviendra une fiction juridique, en étant une propriété privée du roi Léopold II, et régné à Ouroua par une union personnelle sur le plan du droit international. Alors, au fur et à mesure que les années avançaient, surtout à partir de 1911, il y a ce qu'on appelle l'alerte. Il y a eu alerte, donc l'Allemagne qui aussi au départ avec Otto von Bismarck qui s'intéressait pas beaucoup aux colonies. Mais à partir de Berlin, bon, l'Allemagne a acquis le Togoland, le Togo. L'Allemagne a acquis le sud-ouest africain, Deutsch-West Africa, la Namibie. Et l'Allemagne a acquis Deutsch-Ost Africa, l'Est africain allemand, qui comprend aujourd'hui trois pays, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Et l'Allemagne était aussi, après ces années-là, au Cameroun. Au Cameroun. Donc, alors l'Allemagne, à un certain moment, aussi comme les Portugais voulaient réunir les Mozambique à Luanda, l'Allemagne voulait réunir Mittelafrique, les milieux, les centres de l'Afrique, ça veut dire partie du Cameroun jusqu'à l'Afrique orientale allemande. Donc, on aurait eu un même pays incluant le nord de la RDC, province orientale, province de l'Équateur, au nord, en partant du Cameroun, parce que le Cameroun avait une frontière avec le Congo belge, par ce qu'on appelle le bec du canard. Donc, à partir de là, faire un tracé, prendre tout le nord du Congo, jusqu'à rejoindre le Rwanda et le Burundi et l'Est africain allemand, qui est la Tanzanie actuelle, qui était les Tanganyika. Donc, ce rêve d'une Afrique du milieu a beaucoup habité Otto von Bismarck, les diplomates. Diplomate allemand au début du XXe siècle. Et alors maintenant, il y a eu des négociations, d'une part entre le roi Léopold II et la Belgique, et qui avait d'ailleurs déjà pris par l'annexion en 1908 la responsabilité du Congo comme colonie. Donc il y a eu des négociations d'abord entre Britanniques et Belges pour que les droits de préemption de la France ne soient pas exercés et pour que les droits de préemption du Portugal ne soient pas aussi exercés au Congo. Donc, il y a eu des négociations dans la révision des frontières. Et ces frontières, comme vous savez, on les a négociées pendant toute la période coloniale. Jusqu'en 59, on continuait toujours à négocier les frontières africaines.
Et d'ailleurs, les Anglais, ils n'ont pas fait ça simplement pour des raisons diplomatiques. Hein. Ils ont réussi aussi, c'est très très intéressant, à faire entrer le capitalisme anglais au Congo belge en tenant à l'écart le capitalisme français. Professeur Mabiala, vous avez étudié en Allemagne, où vous avez fait votre thèse de doctorat. Vu du côté anglais et du côté français, on parle beaucoup de l'impérialisme allemand. Donc, en faisant comme si l'Angleterre n'avait pas vraiment d'impérialisme, alors que nous connaissons Cecil Rhodes, et comme si la France non plus n'avait pas vraiment d'impérialisme, alors que nous connaissons, par exemple, le Premier ministre, le président du Conseil, Jules Ferry. C'est cet impérialisme-là. On dit que c'est à partir de Guillaume II que ça prend forme. Il y a des gens qui écrivent des livres, notamment une sorte de géopoliticien de l'époque, Otto Richard Tannenberg, qui écrit un livre « La plus grande Allemagne ». L'Allemagne commence à s'intéresser aussi à l'Afrique du Nord. Donc il y a des incidents à Tanger, à Agadir. Donc beaucoup insistent sur l'idée qu'il y a une sorte de volonté de révisionnisme allemand pour réviser la conférence de Berlin, pour prendre pied sur le continent africain. Vous qui connaissez bien l'Allemagne, il y a vraiment un sentiment qu'à partir de Guillaume II, il y a une volonté impériale affichée qui serait l'une des causes de la Première Guerre mondiale.
Bon, d'abord, je crois que c'est entre la France et l'Allemagne, d'abord, il y a un problème culturel. Le problème culturel, c'est que les Allemands disent que les Français parlent franklich. Ils parlent franchement. Donc, pour un Allemand, les Français, c'est un gueulard. OK? Alors, mais en attendant, les Français disent des Allemands qu'ils ont l'esprit militariste. Ce sont des gens brutaux et qui aiment la guerre et qui aiment l'hégémonie. Alors, et que l'Allemand, finalement, il a l'esprit de Stamm, c'est la tribu, l'esprit de tribal, donc les liens de sang, hein, donc il croit beaucoup au lien de sang et à la patrie, et que l'Allemagne, et les Allemands se disent eux-mêmes être un pays de superlatifs. Donc au début, au moment du partage entre guillemets l'Afrique à Berlin, les ambitions de l'Allemagne sont assez floues et on soutient le roi Léopold II d'abord parce que ses grands-pères sont allemands. Léopold II sont des Cobourg en Allemagne. Alors bon, pour cette raison, Bismarck dit, écoutez, c'est quand même quelqu'un qui a notre sang, il faut le soutenir d'une manière ou d'une autre. La construction européenne est le résultat des mariages entre les maisons princières de Munich, Hanovre, Luxembourg, Londres. Les maisons princières, les femmes en Europe ont participé beaucoup à l'histoire diplomatique de l'Europe et surtout à l'histoire de la construction européenne. Alors, donc, les Allemands de l'époque n'avaient pas au départ de grandes ambitions coloniales, mais autour de 1900-1901, Wilhelm II, et après Bismarck et durant ces temps-là, ils ont commencé à dire, écoutez, nous étions trop généreux vis-à-vis des Belges, on leur a laissé trop, et n'ont pas la capacité de gérer un aussi grand État, il faut qu'on le reprenne. Ça, c'était dit par des diplomates comme allemands à l'époque, deux ans ou trois ans avant la guerre. On disait, tant qu'ils ne seront pas capables de gérer un pays aussi grand, eh bien, il faut le reprendre. Et dès que nous l'aurons repris, nous allons construire ce que nous appelons Mitte l'Afrique, disons un état, une espèce d'état du centre de l'Afrique. Et alors nous redeviendrons.
Il irait du Cameroun jusqu'à l'océan Indien.
Jusqu'à l'océan Indien, de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Alors nous redeviendrons une grande puissance. Ce sera la mesure de notre puissance continentale. Parce qu'il ne faut pas ignorer que pendant cette période, l'Allemagne est toute puissante. Et alors on trouve que. Et le roi des Belges a une trop grande voracité compte tenu de la petitesse de sa nation pour gérer des grandes choses comme un grand pays comme le Congo à l'époque. Donc les Allemands, par fierté nationale, parce que la diplomatie du 19e siècle, du 20e siècle comme au 21e siècle, il y a aussi ce qu'on appelle les passions, les sentiments comme fierté nationale, avidité, hein. Alors, on accusait le roi Léopold de trop de gourmandise, qu'il voulait trop embrasser, pour mal étreindre. Et donc, les Allemands, on les trouvait un peu trop arrogants et en même temps trop envahisseurs. Et ce qui fait que Anglais et Belges vont faire alliance, et tantôt les Français aussi appuyant la Belgique, pour que les Allemands ne récupèrent pas le Congo. Parce que, et je crois que c'est là qu'on a toujours dit que le roi Léopold II, sur le plan diplomatique, il a su jouer fort parce que il a empêché que la Belgique ne soit récupérée ni par le Portugal, ni par la France. Et que s'il y a eu des négociations, par exemple, comme en 1910, à propos des Grands Lacs, vous savez que la frontière du Congo allait jusqu'au 30e parallèle. Donc, des territoires comme Changungu actuel a été à l'intérieur de l'État indépendant du Congo. En 1910, il y a eu des négociations du côté des Allemands et même du côté pour les Anglais au nord, du côté du Soudan. Il y a eu des négociations à faire à mesure de telle sorte qu'on cède une partie, par exemple, comme Mobayimbongo, Banzville, tous ces côtés-là, à l'Afrique équatoriale française. En même temps, on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Donc, il y a eu des tractations diplomatiques, des négociations permanentes pour refaire les espaces, reconfiguration séquentielle des espaces au fur et à mesure de l'évolution et des fortes négociations pour que personne n'ait trop de puissance en Europe. Donc, qu'on jouait à l'équilibre tout en défendant les intérêts nationaux.
Et bien justement, c'est ça que nous verrons dans un prochain entretien, puisque le résultat de la Première Guerre mondiale, ça va être une sorte de redistribution des cartes qui semblaient avoir été distribuées durablement à la conférence de Berlin. Merci à vous, professeur Pamphile Mabiala, pour être venu au micro de Mémoire d'un continent, une émission réalisée par Olivier Raoul.
Il n'y a pas de dignité sans liberté.
The Suez Canal, never far from the news in its 87 years of history, hits the headlines like a bombshell.
Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.